Anita Pierce, je suis béni. Mais qu'est-ce que ça veut dire « je suis béni » ? Parce qu'on entend souvent cela, « je suis béni ». Alors, ou alors, il y a aussi des personnes qui, en quelque sorte, jalousent celles qui sont bénies, alors qu'elles ne le sont pas, voyez, et deviennent jalouses. Et parce qu'elles ne sont pas bénies. Alors qu'est-ce que ça veut dire être béni? Et le mieux, c'est tout simplement de découvrir ce que la Bible dit à ce sujet. Mais auparavant, nous allons prier. Seigneur, ta parole est la vérité et nous voulons découvrir ce que toi tu dis dans ta parole concernant la bénédiction. Qu'est-ce que c'est que la bénédiction? Nous voulons être instruits. Et tout cela pour ne pas faire d'erreur et marcher dans la vérité. Seigneur, c'est la vérité qui libère et nous voulons être libérés par ta vérité. Conduis-nous dans la vérité. À toi, Seigneur, soit la gloire. Au nom de Jésus, amen. Voilà, alors, dès le départ, parce que pour répondre à cette question, il faut faire un détour en passant par l'Ancien Testament. Eh bien, dès le départ, il y a une bénédiction, il y a deux bénédictions même qui restent dans l'Ancien Testament et qui restent encore aujourd'hui. C'est la bénédiction. Alors, je vais vous demander d'ouvrir votre Bible dans l'Évangile, pas dans l'Évangile, mais dans la Genèse. Genèse, chapitre 1er et le chapitre 2. On va lire quelques versets. Et c'est là que nous apprenons la première bénédiction. Et de reste, du reste. Alors, la première bénédiction, c'est dans Genèse, chapitre 2, verset 3. Dieu bénit le septième jour et le sanctifia. Car en ce jour, Dieu s'était reposé de toute l'œuvre qu'il avait créée. Première bénédiction, c'est le septième jour. Et même encore aujourd'hui, cette bénédiction reste. Quoi qu'il en soit, on a voulu même changer, on a voulu dire, la révolution a dit non, 7 c'est compliqué, on va revenir au chiffre 10. Alors tous les 10 jours, on va se reposer, mais on a vite déchanté parce que même les animaux ne suivaient plus. Il y a un rythme que Dieu a inscrit dans la nature et dans les êtres vivants. C'est un jour pour se reposer. Et même les chevaux, paraît-il, il y a des témoignages, eh bien, ils n'en pouvaient plus avec les systèmes décadaires, voyez. Alors que il y a une bénédiction sur le septième jour. Est-ce que vous vous reposez le septième jour? Et si Dieu a pris soin de se reposer, sommes-nous plus que lui? Bon, alors, si Dieu est Dieu et qu'il se repose, alors, à plus forte raison, devons-nous aussi nous reposer et nous reposer dans le Seigneur. Alors c'est bien de se souvenir eh bien, qu'il y a une bénédiction qui s'attache à ce septième jour et de le respecter, bien sûr revu et corrigé par les évangiles, eh bien c'est un bienfait. Une bénédiction, c'est un bienfait. Alors donc, respectons ce septième jour, voyez. Bon, maintenant, on parle de faire travailler les gens le jour du dimanche. Bon, ça, c'est de la politique. Ben, vous êtes tous libres eh bien, de savoir ce qu'il faut faire, ce qu'il ne faut pas faire. Voyez. Mais il y a une bénédiction, ça, c'est depuis le commencement. Et puis, il y en a une autre. C'est le chapitre 1er qui reste toujours, verset 28, je crois. Attendez, je lis. Voilà. Alors, c'est après la création de l'homme et de la femme. Eh bien, verset 28, il est dit « Dieu les bénit Et Dieu leur dit, soyez féconds, multipliez, remplissez la terre et soumettez-la. Dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel et sur tout animal qui rampe sur la terre. Voilà, c'est une bénédiction. Dieu les bénit et il y a une bénédiction. Et depuis, eh bien, nous sommes, je crois, 7 milliards, voyez, pour ce qui concerne les humains. Et il y a une bénédiction, simplement parce qu'il y a une parole qui a été dite. Mais il y a aussi un ordre. Mais dans cet ordre, il y a quelque chose qu'on oublie et que les hommes oublient souvent, c'est que nous avons reçu une autorité pour dominer la terre. Pour dominer la terre. Pas de la dominer à tort et à travers, mais on peut aussi se référer à ce texte quand il y a des choses qui ne vont pas. De dire, Seigneur, eh bien, tu nous as donné cette autorité aussi pour dominer. Jésus l'utilise du reste. C'est quand il y a la tempête, stop. Quand il y a l'orage, ben vous pouvez aussi prier. Et peut-être certains d'entre vous ont fait cette expérience. Nous avons aussi à dominer eh bien, les bêtes sauvages, les animaux, etc. Nous avons reçu un mandat de la part du Seigneur. Vous voyez, deux bénédictions. Alors, ça c'est les deux premières grandes bénédictions. Mais quand on parle de bénédiction, il faut jamais oublier qu'il y a son contraire, la malédiction. Toujours. Et ça se voit dès le départ dans la Bible. Bénédiction, malédiction. Bénédiction si tu marches dans la voie que j'ai tracée. Et puis malédiction si tu marches dans une voie opposée. J'ai mis devant toi la mort et la vie, j'ai mis devant toi la bénédiction et la malédiction. Vous savez qu'en hébreu, le mot, quand on parle de malédiction, en fait, c'est une bénédiction inversée. C'est une bénédiction négative. Voilà, c'est dans ce sens-là. Et on n'aime pas trop parler de malédiction de la part du Seigneur, parce que le Seigneur ne peut pas maudire. Ouais. Alors, ça se retrouve, et je vais vous donner un exemple, c'est que ça se retrouve quand il faut annoncer une mauvaise nouvelle. Alors, on s'arrange pour ne pas dire clairement la mauvaise nouvelle, mais on donne une image... Et puis, la personne comprend. Et tout ça parce qu'on a peur de manier la malédiction et la bénédiction. Mais si vous faites très attention à cela, c'est-à-dire que nous avons, parce que Dieu nous a donné une autorité, nous avons, Dieu a créé le monde simplement par sa parole. Il a dit la puissance du verbe, la puissance des mots, la puissance de la parole. Et nous avons la même chose. La puissance des mots et la puissance des paroles se retrouvent. Soit pour faire du bien, soit pour dire du bien, soit pour faire le mal, soit pour dire du mal. Et tout est calqué sur ce que Dieu est et ce qu'il fait. Dieu dit, et les choses existent, et nous aussi, nous pouvons dire du bien et nous pouvons dire du mal. Nous avons un pouvoir, vraiment. Et on dit souvent bien que le pouvoir des mots est parfois plus terrible que le pouvoir des armes. Les mots sont une arme. Il faut qu'on en soit vraiment conscient. Et c'est pour ça que dans des périodes électorales ou même dans des quand on est dans le monde des affaires, eh bien on essaye de dire du mal du concurrent, et de dire des mensonges, etc. Quand on veut nuire à quelqu'un, c'est pareil, toujours le pouvoir des mots et pouvoir des mensonges. Il n'y a pas longtemps, il y a quelqu'un qui me téléphonait et j'ai dit, mais pourtant, tu l'avais dit. Maintenant, crois que tu t'es trompé, que tu as fait une erreur. Crois et demande pardon et repens-toi et tu verras tout de suite la situation va changer. Alors c'était difficile, et puis après je l'ai laissé avec elle-même, cette personne, Et puis elle m'a rappelé un peu plus tard en disant, ça y est, c'est fait, c'est vrai, maintenant je suis libre. Voilà. C'est là qu'on voit le pouvoir des mots. Et nous avons le pouvoir de bénir, et nous avons le pouvoir aussi de maudire. Et c'est pour ça qu'il ne faut pas croire que c'était comme ça. Bénir, nous devrions prendre cela vraiment très au sérieux. Pourquoi ? Parce que même les Cananéens et les peuples païens, quand ils bénissent ou qu'ils maudissent, ils ne le font jamais en disant « je te bénis, je te maudis ». Non, ils font toujours appel à la divinité. Et si possible à trois divinités, à trois divinités différentes. On fait appel à trois divinités différentes. Nous. Et c'est resté, peut-être parce que le diable, eh bien, c'est le singe de Dieu, il a copié. Et nous, nous bénissons au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Mais ce n'est pas trois dieux, c'est un dieu en trois personnes. Voyez, et c'est là qu'il faut qu'on se rende compte. Quand je bénis, mais je ne dis pas n'importe quoi. Je ne dis pas quelque chose pour faire plaisir. Ce n'est pas une formule de politesse. Ce n'est pas pour être gentil avec toi. Mais il y a une force dans la bénédiction. Il y a une puissance dans la bénédiction. Il faudrait que nous en soyons convaincus. Et c'est ça que je voudrais que vous reteniez, compreniez. Quand tu dis à quelqu'un « je te bénis », ça veut dire « je te bénis au nom de Jésus ». Mais je ne te dis pas ça pour te faire plaisir, parce qu'alors là, je déplairai à Dieu. Mais parce que c'est la pensée de mon cœur. Parce que c'est ce que je crois. Voyez, c'est ça qui est important dans la bénédiction. Et souvent, bien, on bénit comme ça, je te bénis, c'est des formules. C'est des formules creuses, des formules pieuses comme ça. C'est des habitudes, c'est des vœux, c'est des manières de parler. Non, c'est beaucoup plus important que ça. Bénir quelqu'un, c'est vraiment croire. Et c'est pour ça qu'avec la bénédiction, les mots que vous dites, vous devez ajouter la foi. Et la foi fait que cette parole devient réalité. Dieu dit et la chose est. Et Jésus n'a pas fait autre chose. Il a parlé et la chose est. Il a dit et le miracle est arrivé. Voyez. Et pour ce qui nous concerne, voyez, quand vous dites « je bénis mon frère, je bénis », ça veut dire qu'il y a quelque chose qui va se passer pour lui. Il y a quelque chose qui est en train de changer pour lui. Dieu va intervenir, voyez. Alors, ce n'est pas simplement un petit mot comme ça qu'on dit. Et c'est tellement important qu'il y a trois chapitres qui sont consacrés à Balaam et Balak. Qu'est-ce qu'il fait Balaam, Balak et le roi de Moab, il a peur. Quand il voit venir toute cette troupe d'Hébreux qui vient d'Égypte. En Égypte, eh bien, ils n'ont pas pu être maintenus dans l'esclavage, ils sortent. Et il dit, qu'est-ce qui va m'arriver? Alors il demande à un sorcier, parce que Balaam, c'est un sorcier, en dépit de toutes les formes, mais c'est un sorcier, et il demande à ce sorcier de venir, et il dit, maudis-moi ce peuple. Mais il y a une chose que ce sorcier reconnaît, c'est qu'il ne peut pas faire ce qu'il veut. Parce que Dieu lui dit, tu ne diras pas autre chose que ce que je te dirai. Mais, voyez, derrière l'attitude de Balak, maudis-moi ce peuple. Et la réponse de Balaam, c'est, ben, je ne peux pas le maudire puisque Dieu le bénit. Voyez. Et des fois, eh bien, c'est aussi ça qui se passe. Et il y a des personnes qui ont peur, voyez. Voyez, on parle de la malédiction. Écoutez, si vous prenez tellement au sérieux la malédiction, moi, je vois des personnes qui m'ont dit « Ah, je ne dors plus. Il y a quelqu'un qui m'a dit des mauvaises paroles, j'en dors plus. J'en dors plus, ça fait 2-3 nuits, je n'arrive pas à dormir. J'ai perdu le sommeil. » Alors, si tu n'arrives pas à dormir suite à des paroles qui sont méchantes et mauvaises pour toi, alors, si des paroles mauvaises produisent cet effet, que sera-ce des bonnes paroles que tu peux prononcer? Elles, elles peuvent faire dormir. Elles, elles peuvent donner la paix. Elles, elles peuvent amener la guérison. Elles, elles peuvent donner la joie et amener la joie. Voyez, il faut que nous soyons convaincus de ça. la parole de bénédiction est plus puissante que la parole de malédiction. Mais aussi, moi, je vois des personnes, oh ben, il y a quelqu'un qui m'a maudit, il y a des gens qui me maudissent, et je le sens. Et alors, ils vivent dans la crainte. Ils vivent que ça se passe, que ça se réalise, même des chrétiens. Il n'y a pas longtemps, il y avait une chaîne de prières. Si vous envoyez cette lettre à cette autre personne, alors ça vous évitera ceci et cela. Eh bien, il y en a qui l'ont fait. Parmi vous, il y en a qui l'ont fait. Mais oui, oui, tout simplement parce qu'ils ont peur. Ils n'ont pas fait attention. Voilà. Alors, on est venu me voir. Alors, c'est pour ça que je vous le dis. On est sensible à ces choses-là. Alors, c'est pour ça que la bénédiction, elle est importante dans la mesure où elle transforme la situation. Et quand nous prions et quand nous bénissons quelqu'un, nous devons dire, Seigneur, je crois. Je crois que ce que je bénis, eh bien, ça va aussi se produire. Sinon, tais-toi. Voilà. Mais tu le crois, quand nous prions pour la bénédiction et que nous demandons la bénédiction d'un malade, eh bien, nous devons croire que Dieu va le bénir d'une façon ou d'une autre, mais Dieu va le bénir. Alors, je vais lire quelques versets, c'est par exemple dans le deuxième livre de Samuel. Deuxième livre de Samuel, chapitre 18. Alors, deuxième livre de Samuel, chapitre 18. C'est l'histoire, je dirais, d'Absalom, que on vient de tuer et on va apporter la nouvelle à son père, à David. Et le porteur de cette nouvelle, eh bien, il court pour apporter cette nouvelle, mais vous allez voir comment il annonce cette nouvelle. Alors je vais lire à partir du verset 28 au verset 32. Voilà, 18, même à partir du verset 27. La sentinelle dit, à mon point de vue, la manière de courir du premier est celle d'Ahimatz, fils de Tsadok. Le roi dit, c'est un homme de bien, il arrive pour de bonnes nouvelles. Ahimatz s'écria et dit au roi, salut. Il se prosterna devant le roi, le visage contre terre, et dit, « Béni soit l'Éternel, ton Dieu, qui a livré les hommes qui levaient la main contre le roi, mon Seigneur. » Le roi dit, « Le jeune Absalom est-il sain et sauf ?» Ahimatz répondit, « J'ai aperçu un grand tumulte au moment où Joab envoya le serviteur du roi et moi ton serviteur, mais je ne savais pas ce que c'était. » Le roi dit, « Écarte-toi et tiens-toi là. » Et Ahimatz s'écarta et resta debout. Et voici que le Cushite arriva. Le Cushite dit, que le roi, mon seigneur, apprenne la bonne nouvelle. Aujourd'hui, l'Éternel t'a rendu justice en te délivrant de la main de tous ceux qui se dressaient contre toi. Le roi dit au Cushite, le jeune Absalom est-il sain et sauf? Le Cushite répondit, qu'il soit comme ce jeune homme, les ennemis de mon seigneur, le roi, et de tous ceux qui se dressent contre toi pour te faire du mal. Alors, le roi, tout frémissant, monta dans la chambre haute de la porte et pleura. Il disait en marchant, « Mon fils Absalom, mon fils Absalom, si seulement j'étais mort à ta place, Absalom, mon fils, mon fils. » Alors voyez, j'ai choisi cet exemple. Pourquoi? Parce qu'on n'ose pas apporter une mauvaise nouvelle et le dire clairement, ben, ton fils est mort. Voilà. Mais on dit que les ennemis du roi eh bien, soient vaincus, etc. Mais on détourne l'attention. Voyez. Pourquoi? Parce qu'on a du mal à, et ça c'est tout à fait oriental, à dire les choses clairement sur ce point-là. Parce que c'est comme si on prononçait une malédiction. Mais le porteur de nouvelles, c'est un porteur de bonnes nouvelles. Et même la malédiction, eh bien, il faut la mauvaise nouvelle, il faut lui donner un côté positif. Voyez, il y aurait beaucoup de choses à dire sur cette façon d'agir. Voyez, cette attitude pleine de comment dirais-je de respect. Voyez, alors ça c'est la première chose. La deuxième, je vais vous demander de lire avec moi dans la Genèse, chapitre 27. Voilà. C'est, tout ça, c'est pour un peu comprendre. Genèse 27. Alors, il s'agit d'un passage que vous connaissez tous concernant Ésaü. Alors, chapitre 27, à partir du verset 33. Voilà. Je l'ai sous les yeux. Vous connaissez un peu l'histoire, c'est Isaac qui pense qu'il va mourir. Et avant de mourir, il y a quelque chose que l'on faisait. C'est pour ça que ça relève toujours de c'est pas une sorte de culte des ancêtres, voyez, mais il y a une bénédiction ancestrale. Et on retrouve ça en Afrique, c'est-à-dire que le père, avant de fermer les yeux, on trouve ça aussi dans les pays du Maghreb, etc., avant de fermer les yeux, eh bien, il donne sa bénédiction. Et c'est important d'avoir sa bénédiction. Et là, c'est une bénédiction tout à fait humaine, tandis que là, c'est autre chose, c'est une bénédiction qui n'est pas seulement humaine, mais c'est une bénédiction où on transmet l'héritage que l'on a reçu de Dieu. Et Abraham a reçu un héritage qu'il a transmis à Isaac, et Isaac attend de le transmettre à Ésaü, parce que c'est l'aîné, mais Ésaü, alors il va l'envoyer à la chasse pour lui faire un bon repas, comme il aime, avec un gibier, du gibier. Mais voici que la maman de Jacob lui dit, eh bien, tu te déguises en Ésaü et tu mets des vêtements, puisque ton père ne voit pas bien, eh bien, qu'il est aveugle, eh bien, tu te mets des vêtements de chevreau sur toi, et il pensera que c'est ton frère, et tu lui feras le repas, c'est moi qui vais le préparer. Et c'est Jacob qui reçoit la bénédiction. Et quand Ésaü revient, bah, il dit, père, bénis-moi. Mais le père lui dit, mais je n'ai plus de bénédiction. Je n'ai plus de bénédiction. Vous voyez, la bénédiction, c'est pas quelque chose comme ça. Ah ben je me suis trompé. Ah bon? Alors attends, la bénédiction que j'ai donnée à Jacob, ah ben je me suis trompé, ben voilà, je la reprends de Jacob et je la redonne à Ésaü. Non, non, non. Non, non, non. Ça ne marche pas comme ça. C'est là qu'on voit l'importance des mots. Et les mots que vous prononcez pour une personne, eh bien, c'est pour cette personne-là. Et c'est pour ça, ne vous trompez pas. Nous, on joue à la bénédiction. Je te bénis. Non, 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 non. Et puis dans ton cœur, comment c'est? Tu bénis les personnes, et puis dans ton cœur, ben, tu penses tout le contraire. Vous voyez, ça ne marche pas. Vous voyez, c'est pour vous faire rendre, qu'on se rende compte, eh bien, de l'importance de la bénédiction. La bénédiction, bien, c'est pas interchangeable. Il y a des gens comme ça, bien, ils reçoivent une bénédiction et ils étaient deux pour faire un ministère ensemble, etc. Et puis il y en a un qui part et il s'en va. Et puis il dit, moi, je vais faire selon ce que je veux. Et Dieu a pour moi une autre bénédiction. Eh bien, non, c'est pas cette bénédiction-là. Peut-être tu recevras une autre bénédiction. Mais il faut que tu te repentes d'avoir cassé la première et d'être parce que celle-là tu en es privé. Voilà. Il faut faire attention. Alors, je vais lire juste ces versets parce que ça donne un éclairage sur la bénédiction. Son père, Isaac, lui dit, qui es-tu? Il répondit, je suis ton fils, premier-né, Ésaü. Isaac fut saisi d'un trouble extrême, et dit, qui est donc celui qui a chassé du gibier et qui me l'a porté? J'ai mangé de tout avant que tu viennes, et je l'ai béni. Aussi sera-t-il béni. Lorsqu'Ésaü entendit les paroles de son père, il poussa un grand cri extrêmement amer et dit à son père, « Moi aussi, bénis-moi mon père !» Isaac répondit, « Ton frère est venu avec ruse et il a pris ta bénédiction. » Ésaü dit, « Est-ce parce qu'on lui a donné le nom de Jacob qu'il m'a supplanté deux fois ?» Il avait déjà pris mon droit d'aînesse, ça, il lui avait donné, hein, et maintenant il a pris ma bénédiction. Il ajouta, « N'as-tu pas de bénédiction en réserve pour moi ?» Isaac répondit à Ésaü, « Voilà, je l'ai établi, ton maître. Je lui ai donné tous ses frères pour serviteurs, et je l'ai pourvu de blé et de vin nouveau. Que puis-je donc faire pour toi, mon fils ?» Ésaü dit à son père, « Tu n'as donc que cette seule bénédiction, mon père. Moi aussi, bénis-moi, mon père. » Ésaü se mit à sangloter. Son père Isaac lui répondit, « Voici, ta demeure sera privée des ressources de la terre et de la rosée du ciel d'en haut. Tu vivras de ton épée et tu seras servi à ton frère, manierant librement ça et là. Tu briseras son joug de dessous ton cou. » Et c'est là, pour que vous rendiez compte, ben, la bénédiction, ce n'est pas quelque chose d'anodin. C'est, oh, on l'a fait, ben, parce qu'il faut le faire. Non. Il faut que nous prenions conscience de la force, de la puissance et de la capacité de la bénédiction. La bénédiction, ce n'est pas des mots pour rien, mais c'est une puissance. Et Dieu vous a donné une puissance dans la bénédiction. Et c'est pour ça qu'il faut bien réfléchir à ce que Dieu vous a donné. Parce que ça peut se retourner contre vous. Et c'est ce qui s'est passé pour Ésaü. Ou plutôt, même pour Isaac. Il avait reçu une bénédiction qu'il devait donner à Ésaü, parce qu'il était l'aîné. Et puis, il n'a pas fait attention. Et ce qu'il a donné à Jacob ne pouvait pas lui être repris. Et c'est important. Ne vous trompez pas non plus de destinataire pour la bénédiction. Et il y aurait beaucoup de choses à dire là-dessus, vous voyez. Mais simplement pour que vous compreniez qu'on n'a pas le droit de jouer avec la bénédiction. Et souvent, c'est ce que nous faisons, malheureusement. Et la bénédiction n'est pas interchangeable. Ensuite, Ésaü a voulu obtenir la bénédiction, mais c'était trop tard. C'est trop tard. La bénédiction avait été dite. Et elle sera pour Jacob, et elle ne pourra jamais lui être retirée. Alors, maintenant, je continue pendant encore un petit peu de temps, et on va prier tout à l'heure. Vous avez, je l'ai déjà évoqué il y a quelques instants, c'est la bénédiction n'a de force que si elle est accompagnée de la foi. Parce qu'il y a des paroles comme ça, c'est du vent, parce qu'il n'y a pas la foi. Et c'est pour ça que quand vous bénissez, bénissez avec la foi. Bénissez en croyant. Sans cet élément de la foi, ce ne sont que des paroles. Et c'est pour ça d'ailleurs, parce qu'on n'y met pas la foi, qu'on néglige ou on méprise un peu les bénédictions. On dit, oh, bon, encore une bénédiction. Non, c'est important. La bénédiction, elle a son importance. Et dans le livre des Nombres, c'est la prière des... comment on appelle ça? C'est au chapitre 6. C'est la bénédiction des prêtres, comme on appelle, mais elle a toujours été reprise. Et là, vous verrez aussi, dans cette bénédiction, c'est le chapitre 6, et je vais lire à partir du verset 22. Chapitre 6 du livre des Nombres, verset 22. Et elle fait référence à ce qui a été copié par l'ennemi, c'est la bénédiction au nom trois fois de Dieu. Vous savez, c'est comme dans Ésaïe, on dit saint, ça pourrait suffire, on dirait saint, saint et l'éternel. Non, c'est toujours saint, 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 trois fois. Trois fois saint, le Dieu trois fois saint. Le Dieu qui nous bénit, Père, Fils et Saint-Esprit. Et là, nous sommes dans l'Ancien Testament, et au chapitre 6, verset 22, l'Éternel parla à Moïse et dit, « Parle à Aaron et à ses fils, et dis, vous bénirez ainsi les Israélites, vous leur direz, que l'Éternel te bénisse, te garde, que l'Éternel fasse briller sa face sur toi et t'accorde sa grâce, que l'Éternel lève sa face vers toi et te donne la paix. » C'est ainsi qu'ils mettront mon nom sur les Israélites et je les bénirai. Quand vous bénissez, vous mettez le nom de Dieu, hein, sur la personne. Ce n'est pas quelque chose, c'est rien. Non, vous mettez, vous engagez aussi Dieu. Et c'est souvent ce que Dieu a reproché à Israël et il lui a fait payer cher aussi en le dispersant au milieu des nations, parce qu'en fait, les Israélites n'honoraient pas Dieu, sinon des lèvres. Mais ils ne pratiquaient pas dans leur cœur ce qu'ils disaient avec leurs lèvres. Voilà. Mais quand tu bénis, tu bénis au nom de Dieu, du Père, du Fils, du Saint-Esprit. Et puis ici, c'est l'Éternel te bénisse, te garde, l'Éternel fasse briller sa face sur toi et t'accorde sa grâce. Et troisième point, que l'Éternel lève sa face vers toi et te donne la paix. Voyez, je le souligne simplement en passant, parce qu'il faudra en parler beaucoup plus, voyez, mais le développer. Mais c'est aussi, quand vous bénissez, vous engagez le nom de Dieu. Ce n'est pas vous qui avez la capacité de bénir. Vous pouvez faire du bien, oui, mais quand vous bénissez au nom de Dieu, vous engagez son nom. Et ce n'est pas un nom que l'on peut prendre en vain. Tu ne prendras pas le nom de l'Éternel, ton Dieu, en vain. Voilà. Il faut qu'on fasse attention à cela. Voyez. Alors, souvent, c'est quelque chose qui est oublié. Mais il y a aussi un autre cas de figure que je voudrais citer, c'est dans Exode. Voyez. Dans Exode, chapitre 12. Exode chapitre, je crois que c'est le chapitre 12, non, oui, c'est ça, 12. Exode chapitre 12, il y a un récit assez, une parole qui est assez intéressante. C'est celle qui est relative au départ des Israélites après la dernière plaie, c'est-à-dire après la mort des premiers-nés. Alors, Pharaon convoque Moïse, au milieu de la nuit, et puis au verset 32, voici ce que nous lisons. Alors, verset 29, on va lire. « Au milieu de la nuit, l'Éternel frappa tout premier-né dans le pays d'Égypte, depuis le premier-né du Pharaon, assis sur son trône, jusqu'au premier-né du captif dans sa prison, et jusqu'à tout premier-né du bétail. » Le Pharaon se leva la nuit, lui, tous ses serviteurs et tous les Égyptiens, et il y eut de grands cris en Égypte, car il n'y avait point de maison où il n'y eut un mort. Dans la même nuit, le Pharaon appela Moïse et Aaron et leur dit, « Levez-vous, sortez du milieu de mon peuple, vous et les Israélites aussi. Allez, servez l'Éternel comme vous l'avez dit. Prenez aussi votre petit et votre gros bétail, comme vous l'avez dit, allez et bénissez-moi aussi. » Voilà. Vous voyez, c'est, il capitule, mais comme il a été l'objet de la malédiction, il faut annuler cette malédiction. Et il dit, bénissez-moi aussi. Vous voyez. Alors, je ne sais pas si Moïse l'a fait, hein. Ça, ce n'est pas dit. C'est pas dit, mais il le demande, vous voyez, puisqu'après Pharaon va être submergé par les flots de la mer, des gens. Et mais c'est clair, vous voyez, je me suis maudit en n'obéissant pas à l'Éternel. Eh bien, pour annuler cette malédiction que j'ai mise en route contre vous. Mais en fait, maintenant qui m'atteint, puisque les premiers-nés du pays d'Égypte, tous les premiers-nés du pays d'Égypte meurent, eh bien maintenant, bénissez-moi, voyez, Et c'est là ce que l'on retrouve dans l'Ancien Testament déjà, cette notion, la bénédiction peut annuler la malédiction. Dieu est celui qui change la malédiction en bénédiction. C'est ce qui s'est passé pour Joseph. Je ne vais pas revenir là-dessus, mais simplement terminer. Terminer parce que, par Jésus. Jésus, dans l'Épître aux Galates, que maintenant on va étudier pendant les mois qui viennent, les semaines plutôt qui viennent, eh bien, dans l'Épître aux Galates, il y a quelque chose de particulier. C'est que il est question de la malédiction et de la bénédiction. Et je vous invite à lire, à ouvrir votre Bible dans Galates chapitre 3. Et on va terminer là-dessus. Et encore, avant de lire cela, je tombe sur Éphésiens et je lis chapitre 1er d'Éphésiens, verset 3. « Béni soit le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ qui nous a bénis de toute bénédiction spirituelle dans les lieux célestes en Christ. » Nous avons une bénédiction dans le ciel. Il y a des bénédictions dans le ciel. Et Dieu veut nous faire part de ces bénédictions dans le ciel. Mais c'est qui va nous les donner? Qui est celui qui ouvre la porte des bénédictions qui sont dans le ciel, dans les lieux célestes? Eh bien, c'est Jésus. Jésus. Et comment est-ce qu'il l'a fait? Alors, on va lire dans Galates, chapitre 3, verset 13. Et on devrait toujours avoir ce verset bien présent à l'esprit, d'autant plus que tout au début de ce chapitre, il est question des Galates. Ce sont des Gaulois. Hein. C'est une tribu gauloise qui s'est égarée dans la Turquie actuelle. Vous voyez, c'était presque 3 siècles avant Jésus-Christ. Et alors, je ne sais pas si vous avez la mentalité de ces Gaulois, mais quand vous étudierez l'Épître aux Galates, eh bien, dans les fraternités, peut-être vous y verrez plus clair. Oui, vous verrez qui vous êtes maintenant. Il y a tellement de mélanges qu'on commence à y retrouver. Alors, il leur fait un reproche. Il dit, qui vous a ensorcelé aux Galates? Mais quand ils disent là, qui vous a ensorcelé, c'est-à-dire, c'est très fort. C'est-à-dire, mais qui vous a entraîné dans cette malédiction? Parce qu'en fait, qu'est-ce que vous voulez faire? C'est-à-dire, c'était des faux docteurs qui venaient, après que Paul eut prêché le bon évangile, le vrai évangile, et on pense que c'était vraiment des païens, donc ils n'avaient rien à voir avec le judaïsme, et qui avaient écouté la bonne nouvelle de l'évangile, qui s'étaient convertis, qui s'étaient repentis, qui ensuite avaient été baptisés d'eau, baptisés dans le Saint-Esprit, et puis voilà qu'on arrive et on dit, si vous voulez être sauvé, hein, ça ne suffit pas. Quoi? Ça ne suffit pas. Ah, ben si vous voulez être sauvé, ce n'est pas seulement la croix, ce n'est pas seulement Jésus, ce n'est pas seulement le baptême, ce n'est pas seulement le baptême d'eau et le baptême dans le Saint-Esprit. Non, 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 il faut revenir aux pratiques mosaïques. Il faut la circoncision, il faut les fêtes juives, etc., etc. Et alors là, Paul, il pique sa crise, si on peut dire. Et alors, il réagit et il écrit cette épître. Et il rappelle quelque chose là, dans cette épître, que nous ne devons jamais oublier. Après avoir dit « Le juste vivra par la foi », c'est le verset 11, « Nul n'est, et que nul ne soit justifié devant Dieu par la loi ». Cela est évident, puisque le juste vivra par la foi. On est justifié devant Dieu par la foi et non pas par la loi. Or, la loi ne provient pas de la foi, mais elle dit, celui qui mettra ces choses en pratique vivra par elle. Et il ajoute, Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi, étant devenu malédiction pour nous, car il est écrit, maudit soit quiconque est pendu au bois, afin que pour les païens, la bénédiction d'Abraham se trouve en Jésus-Christ et que par la foi, nous recevions la promesse de l'Esprit. Ce que l'apôtre Paul dit, c'est clair. Et c'est très simple. Il y avait sur les païens une malédiction. Ils ne connaissaient pas Dieu. ils agissaient selon les principes du paganisme. Maintenant, il fait un reproche aux Juifs qui voudraient les faire revenir au judaïsme, et il dit « c'est aussi en sorcelant et c'est aussi c'est une malédiction comme celle que les païens reçoivent, vivent quand ils sont païens. » Et il faut bien préciser, ceux depuis que vous avez reçu Jésus. Avant, bon, le judaïsme, on ne peut pas le condamner. Et c'est l'œuvre de Dieu. Mais maintenant que vous avez reçu Jésus, si vous revenez à ces principes anciens, c'est comme si vous aviez été ensorcelé par un sorcier. Voyez, c'est des termes très forts. Voyez, et il dit, c'est une malédiction. La malédiction de la loi. Elle ne vous sauve pas, la loi. Elle ne vous dit simplement que ce qui est bien et ce qui n'est pas bien. Mais elle ne vous donne pas la force d'être sauvé. Et tu peux faire toutes les prescriptions des 10 commandements. D'ailleurs, tu ne les pouvais pas. Mais si tu essayais, aucune ne peut te sauver parce que tu n'y arriverais pas. Parce que la loi, personne ne peut la faire. Parce que notre cœur est pécheur. Parce que nous sommes péchés. Nous vivons dans le péché. Nous sommes... Comme dit si bien David, j'ai été conçu dans le péché. Ma mère m'a conçu dans le péché. Ça veut dire que c'est pour tous, nous sommes pécheurs avant même que de savoir ce qui est bien, ce qui est mal. Avant de le connaître, nous sommes pécheurs. Nous avons besoin de Jésus. Et ce n'est pas la loi qui peut là faire quelque chose, voyez. Mais quelque chose qui dit, qui est précis, c'est que la malédiction... La malédiction a été ôtée par Jésus. Et tout à l'heure, on parlait du pharaon qui dit, bénissez-moi, parce que sinon, aujourd'hui, c'est les premiers-nés, mais demain, peut-être, c'est les deuxièmes-nés, et puis après, les troisièmes, et moi, je ne sais pas où je vais. Hein, alors, bénissez-moi. Et il demande ça à Moïse. Et aujourd'hui, pour ce qui nous concerne, ceux qui sont autour de nous, comme nous-mêmes, par notre péché, nous sommes maudits. Mais il y en a un qui est venu ôter la malédiction. Et c'est ça, qui est venu annuler les paroles qui ne bénissent pas. Qui est venu supprimer les paroles qui ne bénissent pas. C'est Jésus. Et c'est pour ça que je terminerai là-dessus. Quand nous prions et que nous disons que le Seigneur te bénisse, on peut vraiment dire que le Seigneur te bénisse parce que Jésus est celui qui a annulé par son sacrifice et sa mort sur la croix les malédictions qui normalement devaient nous atteindre. Et nous avons depuis, et c'est l'épître que j'ai lu tout à l'heure d'Éphésiens, nous avons des bénédictions dans le ciel que nous pouvons recevoir, que nous pouvons aussi gérer, que nous pouvons manifester, donner autour de nous, communiquer autour de nous, à cause de Jésus. À cause de Jésus. Et quand je dis à quelqu'un, sois béni dans le nom de Jésus, c'est simple ce que je fais. Je prends la bénédiction qui est dans les lieux célestes et je la donne par Jésus qui a ouvert la porte de ces lieux célestes et qui nous a donné accès. Et cette personne reçoit la bénédiction. C'est pour ça que on va prier, on va se bénir les uns les autres. Mais ne vous bénissez pas d'une façon rapide. Oh, c'est une formule, c'est une formule de liturgique, c'est une formule comme ça de l'Église. Je te bénis mon frère, je te bénis. Non, il y a quelque chose aussi que j'ai trouvé tout à l'heure, et ça c'est peut-être aussi pour vous aider, c'est dans 1 Corinthiens chapitre 14, je crois le verset 18 ou quelque chose comme ça, ou 28, c'est... Je bénis Dieu de ce que je parle en langue plus que vous tous. Est-ce que vous vous rendez compte de ça? Je bénis Dieu de ce que je parle en langue plus que vous tous. C'est-à-dire que c'est l'apôtre Paul qui bénit Dieu. C'est lui qui le bénit. Et il dit, je parle en langue, eh bien c'est une bénédiction. Et c'est pour ça que personne d'entre nous ne doit se priver de cette bénédiction. On peut aussi le traduire, je rends grâce à Dieu de ce que je parle en langue, puisque vous tous, voyez. Mais c'est une bénédiction. Et nous aurions tort de nous priver de cette bénédiction. Et nous aurions tort de priver Dieu de lui dire, je te rends grâce, je te bénis de ce que tu m'as donné, d'être baptisé dans cet esprit, et de pouvoir parler en langue. Parce que c'est une bénédiction. Et cette bénédiction change aussi la mentalité de notre cœur, change notre attitude, notre comportement. Et nous devons prier en langue. D'ailleurs, c'est pas difficile. Essayez. Quand vous êtes en accord avec Dieu, quand vous êtes dans la paix avec Dieu, eh ben, vous parlez en langue, ça vient facilement. Quand il y a la louange, et bien quand on se met à chanter, quand le groupe de louange se met à commencer de chanter en langue, eh bien, des fois, c'est un peu difficile, mais des fois, c'est très facile. Pourquoi ? Parce qu'il n'y a pas d'obstacle, il n'y a pas de problème, il n'y a pas de difficulté. Et souvent, c'est les problèmes qui font qu'on est freiné. Et c'est pour ça que tout à l'heure, je vous posais la question, qu'est-ce que ça veut dire être béni ? Qu'est-ce que ça veut dire être béni ? Alors, généralement, nous disons, eh bien, c'est de ne pas avoir de problème financier, dans la famille, dans le couple, au niveau du travail, c'est de ne pas avoir de problème. C'est ça. Nous, on pense simplement, c'est ça, c'est que tout va bien. Mais le malheur, ou plutôt le problème, c'est que nous avons toujours des problèmes. Et nous aurons des problèmes jusqu'à ce que Jésus revienne ou jusqu'à ce que nous allions le rejoindre. Et c'est pour ça, parce qu'il y a des problèmes, que nous demandons la bénédiction. Et quand un frère a des problèmes, une sœur a des problèmes, ou même que ce n'est pas un frère, une sœur, mais simplement quelqu'un du monde, eh bien nous prions pour lui afin que la grâce vienne sur lui. Et nous le bénissons. Et de même, eh bien, lui pour nous, voyez. Et nous nous bénissons mutuellement. Et nous nous bénissons mutuellement. C'est ce que nous allons faire tout de suite, voyez. Nous allons nous bénir mutuellement. Mais ne croyons pas, très simplement, que des personnes qui disent « je suis béni ».« Je suis béni », ça veut dire « tout va bien ». Mais c'est quand tout va mal que tu dois dire « tout va bien ». Vous connaissez l'histoire de cet enfant qui était mort, et puis la mère vient voir le prophète, et puis il dit « ça va ?»« Oui, tout va bien, tout va bien ». Et il est mort. Tout va bien. C'est ça. C'est de dire, je crois à la bénédiction. Je crois que Dieu bénit. Je crois que Dieu a toujours des bénédictions. Et quand ça va mal, quand l'apôtre Paul est persécuté, jeté en prison, frappé, humilié, méprisé, il était béni. Dieu le bénissait. Parce que dans ses épreuves et ses difficultés, loin de se plaindre, loin d'avoir de l'amertume et de la haine, de la rancune vis-à-vis de ceux qui lui faisaient du mal, il les bénissait. Et il faisait ce que Jésus a dit, bénissez ceux qui vous maudissent. Faites du bien à ceux qui vous haïssent. Bénissez, mais bénissez au nom du Seigneur. Et engagez aussi le Seigneur. Et c'est pour ça que quand vous bénissez au nom du Seigneur, ça a un impact. Et il y aura toujours quelque chose. Mais ne bénissez pas pour faire simplement de la formule, ou simplement des mots, mais bénissez parce que vous le croyez, et vous le verrez aussi s'accomplir. Amen.